Nicolas Offenstadt, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Vous avez d'abord été historien du Moyen-Âge avant de vous tourner progressivement vers des périodes plus proches de nous. Vous êtes spécialiste des questions d'historiographie et de mémoire. Vous avez notamment travaillé sur la Première Guerre mondiale et la commémoration du centenaire de 14-18. Vous avez publié un livre sur les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective. Et on vous connaît aussi pour des interventions dans le débat public autour de la question du roman national et de son instrumentalisation politique. Et plus récemment, vous vous êtes beaucoup intéressé à l'histoire et à la mémoire de la RDA, la République démocratique allemande, à laquelle vous venez de consacrer une trilogie, Le pays disparu en 2018, Urbex RDA en 2019, et désormais aussi une histoire globale de la RDA, apparaître en janvier 2026, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, bonjour, bienvenue et merci pour votre participation à cet entretien, Mola. La présence de la RDA à l'esprit du public français aujourd'hui, c'est peut-être surtout Angela Merkel, le mur de Berlin et des clichés sur les sportifs est-allemands. Mais vous dites vous-même dans votre livre qu'il s'agit d'un sujet très traité, archi-traité, même sur lequel paraît en moyenne près d'un livre par jour depuis 1990, comme vous l'écrivez. Alors je voulais vous demander comment on s'y prend pour aborder la RDA en contournant ses écueils, en évitant ses clichés, ses poncifs. Comment vous y êtes pris, pardon?
Ben, d'une certaine manière, je les ai contournés d'emblée, ces clichés, parce que, contrairement à d'autres historiens de la RDA, c'est le terrain qui m'a amené à m'y intéresser. C'est-à-dire que je n'étais pas un historien de la RDA de toute éternité. J'avais travaillé sur d'autres sujets, même si j'avais souvent croisé l'Allemagne, évidemment, dans mes travaux. Et en fait, pour différentes raisons, je me suis beaucoup promené en Allemagne de l'Est dans les années 2000. Et ce qui me frappait comme historien, c'était une ambiance très particulière. C'est-à-dire que j'ai vraiment circulé beaucoup dans la RDA, j'avais des amis, je m'intéressais à l'histoire de l'Allemagne, donc j'étais beaucoup à l'Est. Il y avait deux choses qui m'ont beaucoup frappé. C'est d'abord l'impression de déshérence dans beaucoup de lieux. C'est-à-dire que vous étiez dans des villes, parfois relativement importantes, 20, 30 000 habitants, et puis on voyait des tas de non-lieux, des usines abandonnées, des chemins qui mènent nulle part, des semi-friches, des sculptures qui n'avaient plus de sens dans l'espace public. Et ça m'a beaucoup intrigué. Ça m'a beaucoup intrigué, donc du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'un pays aussi riche que l'Allemagne, aussi attentif à la culture, fait avec ce paysage un peu parfois désertique, semi-désertique, d'abandon? Et ça m'a beaucoup intrigué. Et il se trouve qu'ensuite, j'ai été nommé professeur invité à l'Université de Francfort-sur-l'Oder. Et du coup, ce que j'avais vu de manière éparse, en me promenant en Saxe, en Thuringe, etc., je l'ai approfondi. Donc, j'ai non seulement vu ces paysages un peu particuliers, comme je vous disais, un mélange évidemment de vie, bien sûr, mais aussi de déshérence. Je l'ai complété par des rencontres. Par des rencontres. Et donc, du coup, très vite, on sort des clichés quand on est dans des rencontres avec des Allemands de l'Est. Parce que d'abord, leur discours n'est pas tout simple au début à comprendre. Parce qu'ils disent des choses, mais ils n'osent pas trop dire au début, on est quand même un étranger. Ce qui peut servir d'ailleurs, parce qu'être un étranger, moi j'ai la chance, évidemment, je parle allemand pour pouvoir parler avec eux. J'ai un accent, donc on voit que je ne suis pas un Allemand de l'Ouest. Donc du coup, j'étais dans le fond un bon interlocuteur pour beaucoup de ces Allemands. Je pouvais échanger avec eux, mais vous voyez bien que j'étais pas issu de l'Allemagne de l'Ouest, avec qui du mépris qui peut parfois être ressenti de ce point de vue-là. Donc j'ai beaucoup échangé. Donc d'abord les paysages et ensuite les échanges. Et ce qui m'a frappé, comme enfant de la guerre froide aussi, je vous en dirai un mot, c'est la complexité de ce que racontaient les Allemands de l'Est. C'est-à-dire que c'était rarement noir ou blanc. C'était jamais la dénonciation pure d'une dictature. C'était jamais non plus l'exaltation d'un socialisme qui aurait été abattu par je ne sais quel complot de l'Ouest. C'était toujours des discours très nuancés, avec des choses qui regrettaient de la RDA, d'autres qui paraissaient insupportables encore rétrospectivement. Et donc, il y avait toujours une forme de bricolage entre ces mémoires. C'était dur à comprendre si on ne réfléchissait pas. Et donc, je me suis dit, dans le fond, l'héritage de ce pays est sans doute plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ce n'est pas simplement soit la nostalgie avec Goodbye Lénine, les objets, la rigolade, la Trabant, ni non plus la Stasi, les persécutions, la prison, le mur et les gens qui étaient tués en voulant quitter la RDA. En écoutant les Allemands de l'Est, on se rendait compte que leur rapport à la RDA, donc leur pays défunt, puisque moi je les ai rencontrés après, était compliqué.
Oui.
Avec des aspects de regret, de nostalgie, des aspects positifs, évidemment des dénonciations aussi de tout un ensemble d'insuffisances, de répression de la part du régime. Donc dans le fond, j'ai contourné les clichés très vite parce que c'était une histoire de terrain. Une rencontre avec un paysage, avec des lieux, avec des gens qui avaient un discours qui était parfois assez compliqué, parfois assez opaque, parfois réservé au départ et puis plus chaleureux par la suite. Et du coup, c'est un peu, dans le fond, par ce biais-là que je me suis intéressé à cette histoire, en me disant, dans le fond, pour qu'elle soit à la fois si présente et si compliquée à énoncer, ça mérite d'être creusé.
Alors justement, vous consacrez un chapitre au paysage, dans lequel on sent aussi votre goût de la géographie et votre expérience de l'urbex, de l'exploration de lieux abandonnés. Et on y voit la diversité des espaces et des paysages de la RDA. C'est intéressant aussi d'avoir un aperçu de cette diversité-là, parce qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte du fait qu'il y a des régions montagneuses, des régions plates, des régions proches de la mer, des régions loin de la mer, etc. C'est pas forcément très présent à l'esprit de tout le monde. Et vous expliquez aussi le statut particulier des espaces frontaliers, doublement frontaliers, comme le Vogtland, qui est à la fois proche de la Bavière et de la Tchécoslovaquie. Et je voulais vous poser la question de savoir si vous aviez un lieu préféré, une espèce de lieu qui symbolise pour vous une sorte d'essence ou de quintessence de la RDA, ou de votre RDA en tout cas, de votre souvenir ou de votre expérience sur place.
Oui, y en a plusieurs, je pourrais vous répondre longuement, parce que c'est vrai que vous avez raison, je suis très géographe, je n'ai pas toujours les compétences requises, mais j'adore la géographie, j'adore les lieux, au-delà même de l'urbex, hein, je me suis énormément promené dans l'ex-Allemagne de l'Est, un peu partout d'ailleurs, je pense vraiment que je l'ai sillonné en long en large. Et ça, je vais vous répondre, mais avant de vous répondre, juste par rapport au début de votre intervention, beaucoup d'histoires ou de perspectives d'écriture sur la RDA partent du haut. Donc ça veut dire souvent une écriture qui est vue de Berlin, vue du pouvoir, donc là aussi, vue du pouvoir berlinois. Et donc du coup, ou alors ce sont des monographies qui s'occupent d'une région, mais il n'y a pas cette idée de prendre en compte, dans le fond, la diversité de la RDA, qui, comme vous l'avez rappelé, est faite de régions qui sont très différentes, qui ont des histoires différentes aussi, des histoires allemandes très différentes. Donc du coup, c'est très intéressant de voir, de s'intéresser, de se frotter avec ces traditions différentes, la manière dont elles ont intégré la RDA, et ça ne s'est pas fait de la même manière. Alors oui, dans le livre, j'ai fait un choix qui est de prendre une région un peu exemple, qui m'a beaucoup fasciné, qui est celle des mines de cuivre autour de Mansfeld-Eisleben, donc aujourd'hui en Saxe-Anhalt, qui est une région qui est extraordinairement marquée par l'extraction, hein, donc par tout le travail à la fois minier, mais aussi de traitement métallurgique, parce qu'il y avait différentes productions qui étaient faites à partir du minerai de cuivre. Et donc, cette région, elle m'a beaucoup fasciné parce qu'elle est évidemment très marquée par l'histoire générale, par l'histoire de la RDA, mais aussi par l'histoire post-90, avec la désindustrialisation, avec la fermeture. C'est une région qui a beaucoup souffert, qui est aujourd'hui très sensible aux sirènes de l'extrême droite et qui produit beaucoup de lieux abandonnés. Il y a des mines entières qu'on peut visiter à l'abandon. Et donc, du coup, je l'ai pris en quelque sorte comme fil rouge du livre, cette région de Mansfeld-Eisleben. Et elle a un autre intérêt pour l'historien et pour l'historien de l'Allemagne, c'est que c'est la région de Luther. Et donc, du coup, c'est là qu'il a vécu, c'est là d'où vient sa famille, hein, il est d'une famille de mineurs. Et donc, du coup, il y a aussi un jeu aujourd'hui, hein, entre une tradition évidemment historique très longue et une tradition à la fois ouvrière et RDA autour des mines de Mansfeld. Donc, c'est très passionnant parce que c'est typique de ces régions en déshérence, mais avec un très lourd passé. Et donc, j'ai sillonné cette région à plusieurs reprises. J'ai visité des lieux abandonnés, j'ai retrouvé des archives abandonnées de ces mines de Mansfeld, et j'ai aussi étudié la transformation pour vous raconter un peu mon rapport à ces lieux-là. Il se trouve que l'hôtel dans lequel je résidais à Eisleben quand je faisais mes enquêtes de terrain, c'est l'ancien administration du combinat, hein, qui est aujourd'hui devenu l'hôtel. Et juste en face, il y a la statue de Luther. Donc j'aime bien ce feuilletage des temps. Donc je travaille dans un lieu qui était dans le fond le cœur de mon objet, hein, le combinat des mines. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans cet hôtel très moderne, vous trouvez, si vous cherchez un peu, il y a un portrait de l'ancien président de la RDA qui est toujours là à Wilhelm Pieck. Et si vous allez encore fouiller dans certaines pièces qui sont très refaites à neuf, hein, c'est un très bel hôtel, vous allez trouver dans la bibliothèque tout un ensemble de brochures de propagande de la RDA. Donc j'aime bien cet entremêlement des temps. Et du coup, j'ai choisi cette région de Mansfeld pour tout ce qu'elle porte, un peu comme fil rouge. Donc on la retrouve dans le livre à plusieurs endroits. Et elle est encore aujourd'hui très, très fascinante à parcourir.
Justement, ça, vous parlez du fait que votre RDA dans le livre tel que vous la traitez, elle est insérée dans une temporalité beaucoup plus longue que la temporalité 1949-1990, qui est sa durée de vie officielle. Et vous l'insérez aussi dans un espace beaucoup plus vaste que le territoire de l'État. dont on a une image de pays fermé. En fait, spontanément, on s'imagine un pays fermé, mais vous montrez qu'il est en réalité traversé par des dynamiques internationales, mondiales, à commencer par les biographies de la première génération des dirigeants qui ont souvent vécu dans plusieurs pays, qui se sont exilés à certains moments des années 30, 40. Vous parlez des flux d'approvisionnement en énergie, en matières premières, et aussi de flux culturels qui traversent et qui pénètrent la RDA malgré cette image de pays fermé qui est quand même très présente à l'esprit du public.
Oui, vous avez raison. D'abord, effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est de l'inscrire dans le temps long. Parce que dans les clichés, c'est l'idée de dire, dans le fond, la RDA, c'est un produit de la guerre froide. C'est la rivalité entre les deux grands, le bloc de l'Est et le bloc de l'Est. C'est donc un enfant de Staline et de la guerre froide. Devant les rivalités, les deux Allemagnes se sont créées, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est. Donc, dans le fond, c'est en quelque sorte un produit soviétique ou un produit du contexte de 45, ce qui est évidemment un des éléments indéniables. Mais aussi, ce qui est très intéressant, l'Allemagne, on le sait, c'est évidemment un pays qui a une très forte tradition socialiste, une tradition intellectuelle. C'est le pays de Marx, c'est le pays de la social-démocratie de la fin du 19e siècle, avec toute sa puissance. Et donc, du coup, la RDA, c'est aussi l'aboutissement pour tout un ensemble de socialistes. C'est un projet qui prend corps. Alors, évidemment, dans des circonstances où ce ne sont pas les socialistes allemands qui maîtrisent le jeu, dans le fond. Mais malgré tout, pour beaucoup, c'est l'occasion de réaliser le socialisme sur la terre allemande. D'ailleurs, on appelait les villes qui étaient construites la première ville socialiste sur le sol allemand. Il y avait cette idée d'accomplir un projet socialiste. Alors, ce n'est pas pour le juger bien ou mal, peu importe. Mais donc, du coup, il y avait la projection d'un futur qui n'était pas seulement les hasards de la guerre froide ou du post-45. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Et d'ailleurs, beaucoup des premiers dirigeants, vous évoquiez effectivement leur dimension internationale parce qu'ils ont dû fuir l'Allemagne nazie. Mais effectivement, c'est des gens qui ont parfois un parcours de militant ouvrier qui n'a pas attendu 1945 pour exister. Certains ont été actifs en 14-18, d'autres ont été des dirigeants de la social-démocratie d'avant 14, alors ça dépend des générations. Donc du coup, ils arrivent avec quand même tout un bagage socialiste, tout un ensemble de projets, avec évidemment des parcours différenciés. Et donc la RDA, c'est aussi le produit, dans le fond, d'une histoire allemande, d'une histoire socialiste, beaucoup plus longue que le simple conjoncture post-45. Et je trouve que c'est intéressant de rappeler ça et de le restituer. Il y a quelque chose qui m'a frappé, que souligne Martin Zabro, le biographe de Honecker. Il dit, dans le fond, Honecker, ce qu'il voulait réaliser, c'était le bien-être de la classe ouvrière telle qu'elle n'avait pas pu en jouir pendant la République de Weimar. Donc du coup, il raisonnait aussi comme un socialiste allemand, communiste allemand, en disant, dans le fond, moi je vais donner un toit aux ouvriers, je vais leur permettre de manger à leur faim. Il raisonnait, dans le fond, pas par rapport uniquement au post-45, mais par rapport à ce qu'avait connu l'Allemagne des années 20 ou des années 30, voire antérieurement. Donc c'est intéressant de montrer que la RDA, dans le fond, c'est aussi une histoire de temps long. Ça, c'est assez fascinant de voir justement. Et d'ailleurs, il y a plein de temporalités qui jouent. Et dans les rapports de force entre les dirigeants, selon le moment où ils se sont engagés, leur légitimité charismatique parce qu'ils ont été des leaders du mouvement ouvrier à un moment donné, ils ont des marges de manœuvre. Par exemple, ceux qui ont été des grands résistants à la guerre en 14-18, qui ont été les fondateurs du Parti communiste, ont une voix au chapitre, parfois assez critique, parce qu'ils ont la légitimité du temps long, hein, et pas du post-45. Donc ça, c'est intéressant de comprendre la RDA, dans le fond, sur une longue histoire allemande, sur une longue histoire de gauche, socialiste, communiste de l'Allemagne. Et le deuxième élément, effectivement, d'où le titre, hein, histoire globale, parce que c'est global dans le temps, mais c'est global dans l'espace. Ce qui m'a fasciné, on le sait, d'ailleurs l'historiographie allemande le travaille de plus en plus, il y a beaucoup de livres qui sortent sur cette question, c'est qu'il y avait cette idée fondamentale de s'inscrire dans une solidarité internationale. C'était le grand mot de l'époque, on le voit partout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le dirigeant de la RDA, Walter Ulbricht, à un moment, rédige les 10 commandements du bon socialiste. Et parmi ses premiers commandements, il y a celui d'être inscrit dans une solidarité internationale avec les travailleurs du monde entier. Alors on pourrait se dire, oui, c'est un peu du pipeau, c'est les grands discours, mais dans la réalité, effectivement, c'est un État fermé, c'est un État autoritaire, c'est un État répressif, donc le contact avec l'autre, il est évidemment soumis en quelque sorte à cette dimension autoritaire de la RDA. Mais il y a ce contrepoint qui est cette solidarité internationale. Donc on est très frappé de voir que la RDA a des grandes ambitions, parfois d'ailleurs, et c'est fascinant, en concurrence avec l'URSS. Parce qu'on pourrait se dire, dans le fond, la gestion mondiale des relations du bloc de l'Est, c'est une affaire de l'URSS. C'est pas vrai. Les pays aussi essayent de jouer leur carte à l'international. C'est le cas de la RDA, c'est le cas aussi de Cuba, qui va mener une diplomatie culturelle aussi en dehors du bloc de l'Est. Et donc la RDA va avoir des ambitions internationales assez fortes de soutien sous trois formes. La première forme, c'est le soutien aux mouvements en lutte, les mouvements insurrectionnels, les mouvements de décolonisation en Afrique, en Asie. Hein, donc, du coup, ça, c'est un élément important. Par exemple, l'OLP pour la Palestine, par exemple, l'ANC pour l'Afrique du Sud, hein, pour la lutte contre l'apartheid, évidemment, mais aussi le Viet Minh et les Vietnamiens en lutte, hein, contre, d'abord contre les Français, puis ensuite contre les Américains. Donc, le soutien aux mouvements considérés comme des mouvements frères sur le plan politique, donc, ce qui élargit, évidemment, la perspective, parce que ça fait beaucoup de liens. Certains viennent d'ailleurs se former militairement en RDA. Donc ça, c'est un premier élément, les mouvements luttent. Le deuxième élément, c'est de soutenir et de favoriser les pays qui viennent d'être décolonisés et qui ont donc besoin, dans le fond, d'un soutien d'infrastructures, d'organisation et d'administration. Donc, il y a aussi l'idée d'envoyer des compétences allemandes, en quelque sorte, dans ces pays décolonisés, que ce soit en médecine, que ce soit en matière militaire, en matière de services secrets. Donc, il y a l'idée d'influer, en quelque sorte, sur des pays qui peuvent se rapprocher du modèle socialiste. Et une fois que les pays sont installés, ensuite, il y a toujours cette idée de développer des liens avec des pays socialistes. On a parlé d'ailleurs, c'est une expression que je reprends à beaucoup de collègues, une mondialisation rouge. Une mondialisation rouge, et la RDA en fait vraiment partie. Et d'ailleurs, c'est fascinant parce que c'est un petit pays qui a plein de problèmes économiques, et ils vont aller soutenir vraiment dans tous les continents, hein, les pays ou les mouvements qu'ils considèrent comme soit les intéressants, soit avançant vers un socialisme allié. Ils vont même jusqu'au Yémen du Sud. On a connu une république socialiste du Yémen du Sud. Et la RDR envoie notamment, hein, les chefs des services secrets pour aider à former les services secrets du Yémen du Sud. Donc vous voyez, c'est quand même assez ambitieux. Hein, Vietnam, Yémen du Sud, on va en Angola, au Mozambique, soit pour aider à construire, soit pour aider à développer l'administration. Et donc vous avez encore aujourd'hui à Cuba des sucreries qui ont été construites par la RDA. Vous avez en Afrique, par exemple à Zanzibar, des immeubles qui ont été construits par la RDA. Vous avez des gens qui ont été formés en RDA, qui sont venus dans les universités. Donc, ce n'est pas un monde si fermé que ça. C'est sous des conditions, évidemment, assez étroites. Hein, ce n'est pas dans une pleine liberté de circulation, on le sait. C'était très contraint, il y avait beaucoup de contraintes. Il y a un vrai internationalisme, il est cantonné par des tas de règles, mais il est réel et il est assez fascinant parce qu'il va très loin. Hein, d'ailleurs, au sein de la RDA même, il y en a qui ont commencé à dire que ça nous coûte très cher, tout ça. Ça nous coûte très cher d'aller soutenir tout le monde à travers différents éléments. Et puis avec beaucoup, et c'est assez fascinant d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de rencontres, d'interactions. J'essaie aussi de connecter cette histoire, de voir les regards respectifs des uns des autres. Par exemple, un cas fascinant qui a été étudié par une anthropologue, c'est comment après la fin de la guerre du Vietnam, la RDA a aidé à reconstruire la ville de Vinh au Vietnam, en Luc Nguyen, près du lieu de naissance de Chi Minh, donc une ville importante. Donc ils ont fait un investissement très très important dans cette ville. Mais en fait, il y a des débats en permanence avec les Vietnamiens parce que la RDA arrive avec le modèle, hein, des ensembles, des cités à l'allemande. Donc ce qui avait, donc du coup, du point de vue familial, les Vietnamiens sont pas du tout contents parce qu'ils avaient pas en tête le modèle de la famille nucléaire à l'allemande. Ils voulaient pas non plus qu'il y ait trop de magasins parce que l'approvisionnement était pas génial forcément au Vietnam, donc alors que les Allemands arrivaient avec leur plan bien carré, il faut que ce soit comme ça, etc. Donc il y a plein de rapports de force qui sont assez intéressants, qui montrent que chacun a des intérêts différents. Mais il y a aussi quand même du coup toute une vie internationale qui va très loin, encore une fois, parce que ça touche à la fois l'aménagement, la médecine et les affaires militaires secrètes. Et puis plus la RDA va entrer en quelque sorte dans les difficultés économiques après les crises pétrolières, plus la solidarité internationale devrait être monnayée. C'est-à-dire, quand on aide, il faut évidemment qu'on ait en retour soit des livraisons énergétiques, soit la possibilité d'obtenir des produits dont on a besoin pour la RDA même.
Vous expliquez bien les flux de main-d'œuvre aussi et le fait que, là encore, de façon un petit peu contre-intuitive peut-être pour beaucoup de lecteurs, il y a des étrangers en RDA. On entend beaucoup aujourd'hui, notamment quand on parle des scores de l'AFD, de l'extrême droite en Allemagne de l'Est, la thèse selon laquelle il y aurait plus de xénophobie en RDA parce que l'étranger, la présence de personnes visiblement étrangères sur le territoire serait quelque chose de neuf et d'un peu inconnu pour ceux qui ont grandi en RDA. Mais en réalité, il y avait des étrangers en RDA. Ils étaient même relativement nombreux.
Oui, tout à fait. Ils étaient. Mais évidemment, on compare toujours avec l'Allemagne de l'Ouest, qui est évidemment beaucoup plus ouverte. Donc numériquement, il y en avait moins en pourcentage. Oui. Mais effectivement, il y en avait. Il y en avait d'ailleurs dans des endroits tout à fait stratégiques, puisque, comme d'ailleurs en URSS, dans le bloc de l'Est, les universités allemandes vont accueillir des étudiants étrangers. Donc il y en avait dans les universités, il y en avait dans les usines, parce qu'on avait beaucoup besoin de main-d'œuvre. Hein. Un des grands problèmes de la RDA, quasiment pendant toute son histoire, avec des variations, c'est le manque de main-d'œuvre. Donc du coup, on va signer des contrats avec différents États pour en faire venir. Les principaux, c'est les Vietnamiens, mais il y a aussi les Cubains, les gens issus des anciennes colonies portugaises, Mozambique, Angola. Donc, il y a effectivement des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, donc travailler dans les usines de RDA, d'ailleurs, parfois avec des difficultés. Mais il y avait... Donc là aussi, c'est assez intéressant parce que c'est ambigu. Il y avait à la fois, on fêtait l'arrivée des étrangers, le jour de leur fête nationale, on organisait une petite fête dans l'usine, il y avait des drapeaux qui étaient faits, et on dépensait un peu d'argent pour bien les accueillir. Et de l'autre côté, on faisait aussi attention à ce qu'il n'y ait pas trop de contact avec les Allemands de l'Est, notamment du point de vue des mariages, etc. Donc, c'était toujours assez ambigu. Hein, donc, il y avait un accueil réel, et en même temps aussi, cette idée de, évidemment, protéger quand même les spécificités allemandes. Mais on ne peut pas dire que la RDA était un État fermé, sans rapport avec les étrangers. Hein. Il y a eu autour de 100 000 Vietnamiens qui sont venus travailler. Et d'ailleurs, si vous allez aussi aujourd'hui vous promener en Allemagne de l'Est, vous voyez encore cette trace hein, dans beaucoup de petits restaurants vietnamiens. Quand les gens sont un peu âgés, c'est souvent des gens qui sont venus travailler à l'époque de la RDA. Donc oui, il y avait des contacts et puis il y avait beaucoup de visites aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement dans le sens dont on fait venir des travailleurs ou c'est des étudiants qui bénéficient des universités allemandes. Et ça, c'est bien montré par l'historiographie récente. Tous ces Allemands de l'Est qui vont travailler dans les brigades, tous ceux qui vont contribuer à construire des hôpitaux, des cimenteries, des sucreries, qui vont contribuer à former les gens des services secrets, bah, ils ont des contacts aussi sur place. Hein, donc du coup, ça les ouvre. Et dans les témoignages qui sont livrés après coup, bah, c'était des expériences parfois très positives, très heureuses. Hein, ils ont ramené des souvenirs, ils se sont fait des amis un temps. Donc il y a aussi eu un contact réel qui est au-delà des questions de stratégie politique, qui fait qu'un certain nombre d'Allemands de l'Est ont de très bons souvenirs de ce qu'ils ont pu vivre. D'autres, ça peut être plus difficile, évidemment, comme toute expérience. Mais cette idée aussi que c'est uniquement une instrumentalisation politique du régime par rapport à ses objectifs, certes, peut-être, mais il y a aussi cette expérience réelle. Et beaucoup racontent hein, que, ben voilà, ils ont découvert d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres pays, d'autres manières de faire, et parfois avec des bonnes relations. Et d'ailleurs, récemment, il y a un livre qui est sorti en Allemagne qui s'appelle « Ostalgie internationale », qui montre toutes les traces, encore aujourd'hui, hein, des contacts de la RDA avec le monde entier, à travers ça peut être des marques de bière ou des motos qui circulent. C'est parfois anecdotique, mais c'est parfois plus profond. D'ailleurs, si vous allez vous promener à Cuba, vous verrez encore beaucoup de motos fabriquées par MZ en Saxe, hein, parce que, évidemment, avec le problème de l'embargo à Cuba, vous ne disposez pas, comme on pourrait le souhaiter, évidemment, de toutes les automobiles et les motos que disposent les autres pays, avec l'embargo est très lourd. Et donc, du coup, on cultive celles qu'on a pu acheter à l'époque du bloc de l'Est. Hein. Et donc, dans tout Cuba, vous avez des gens qui circulent en MZ. Hein. Donc, vous voyez, ces liens sont encore visibles parfois aujourd'hui.
Vous parliez du besoin de main-d'œuvre. Ce qu'on voit bien aussi, c'est le besoin constant de devises. Et on voit qu'il y a toute une... que c'est une Allemagne qui exporte aussi. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui ne saute pas aux yeux spontanément. On se dit, l'Allemagne qui exporte, c'est l'Allemagne de l'Ouest. Mais l'industrie est-allemande exporte aussi beaucoup. Et vous consacrez aussi des pages assez rocambolesques même à la COCO, la coordination commerciale qui organise un commerce clandestin de façon à faire rentrer des devises et qui est dirigée par un personnage un petit peu louche, Alexander Schalk, pardon, Golodkovsky. Et c'est intéressant aussi parce que ça apporte une dimension presque romanesque à certaines pages de votre livre.
Oui, tout à fait. Effectivement, ce qui va... Un des problèmes très vite de la RDA, c'est dans le fond d'abord de supporter la crise économique des années 70, hein, notamment la deuxième crise pétrolière, et de pouvoir en réalité sortir d'un cercle vicieux qui était l'idée de dire que pour vendre et exporter dans un contexte de plus en plus difficile, il faut être performant. Pour être performant, il faut avoir des pièces performantes qui viennent donc de l'Ouest pour beaucoup. Donc, il faut pouvoir les acheter en devises. Mais pour avoir des devises, il faut vendre. Mais pour vendre, il faut pouvoir avoir les pièces qui permettent de vendre des produits efficaces. Donc, ils étaient souvent dans une situation économique, dans un cercle peu vertueux. Et donc, du coup, il fallait se procurer des devises. Effectivement, c'était un des enjeux importants pour pouvoir économiquement tenir et même continuer à pouvoir exporter. Et très vite, le commerce ordinaire ne le permettait pas pour ces raisons-là. Et puis parce que l'industrie allemande avait est-allemande avait tout un ensemble de difficultés. Il y avait des problèmes d'approvisionnement, de main-d'œuvre, d'organisation. La planification est très, très rigide hein, dans un commerce international par rapport à un commerce international libéral. Et donc, du coup, effectivement, il y a cette coordination commerciale, la fameuse COCO, qui avait pour but, en dehors de la planification, donc en dehors de ce qui était visible hein, pour les Allemands de l'Est, la charge de procurer à la RDA dont elle avait besoin pour continuer à être performante économiquement. Alors là, ils ont fait feu de tout bois. Hein, c'était vraiment une bande de truands. Hein, donc, on vendait des prisonniers politiques, on vendait des œuvres d'art, on utilisait tout ce qu'on pouvait pour ramener des devises. Il y avait des tas de sociétés écrans qui sortaient donc de la planification ordinaire qui devait normalement enchasser toute l'économie est-allemande. Hein, et donc, du coup, il y avait même à l'intérieur, il y avait des gens qui avaient été des vrais mafieux, des truands. Il y a des personnages assez rocambolesques, hein, qui dirigeaient des entreprises. Il y en a même qui avaient déjà été des trafiquants à la fin de la guerre dans les trafics interzones, avant que les deux Allemagnes soient stabilisées. Donc on est là vraiment dans un monde très parallèle. Ce qui, dans le fond, c'est un peu une critique qui a été portée à la RDA, c'est-à-dire que ben voilà, on donne l'impression de vouloir bâtir un socialisme, une économie planifiée, contrôlée pour le bien de la population. Et puis dans le fond, il y a beaucoup de rentrées qui finissent par passer par des liens et des relations occultes. Donc, évidemment, c'est quelque chose aujourd'hui qui a beaucoup surpris, d'autant que les Allemands de l'Est, évidemment, ne connaissaient pas, ils pouvaient éventuellement en avoir entendu parler, mais ils ne connaissaient pas l'ampleur hein, de tous les trafics de la coco. Il y avait aussi du trafic d'armes, bien sûr.
J'ai fait quelques recherches en même temps que je lisais votre livre et j'ai vu qu'il y avait une histoire globale de l'Allemagne qui avait été publiée en 2020, dans laquelle la RDA ne tient quasiment aucune place. Elle apparaît de façon vraiment très, très limitée. Et je me suis demandé dans quelle mesure votre projet d'histoire globale de la RDA était aussi un projet qui visait à combler cette lacune, à essayer de rééquilibrer peut-être un petit peu les choses quand on parle d'insertion de l'Allemagne dans la mondialisation, dans le temps long, de redonner sa place à cette forme-là de mondialisation allemande.
Oui, tout à fait. Et c'est une question intéressante parce que dans le fond, comment est vue la RDA dans l'histoire allemande ? Il y a un côté, on a l'impression d'un écart historique, parce que c'est fini. Hein, vous le disiez tout à l'heure dans l'introduction de notre conversation, on pourrait avoir l'impression que c'est un état limité, 45-90 ou 49-90, soit on prend le moment de la zone d'occupation soviétique, soit la fondation institutionnelle de la RDA, et puis ensuite son absorption par l'Allemagne de l'Ouest. Donc on pourrait dire, dans le fond, et c'est parfois un peu le regard de l'historiographie allemande, c'est un peu comme un fleuve qui a quitté son lit hein, et qui reprend le cours naturel après une inondation ou un moment de catastrophe climatique. Hein, et donc, du coup, et en quelque sorte, 1990, ce serait le retour du cours naturel de l'histoire allemande. Et vous savez, cette expression qui est toujours reprise, la RDA, ce sera simplement une note de bas de page hein, dans l'histoire allemande. Et donc, du coup, évidemment, comme historien, là, je dirais que c'est même au-delà de l'histoire allemande, c'est très téléologique. Dans le fond, il y a rien de naturel en histoire. Il n'y a pas de frontières naturelles. Elles sont toujours construites, les frontières, même si c'est des frontières naturelles, que ce soit des montagnes ou un fleuve, c'est à un moment les hommes qui décident que c'est une séparation. Donc, il n'y a pas de frontières naturelles pour un historien, il y a toujours une construction. Et du coup, il n'y a pas d'Allemagne naturelle, hein, qui serait, je ne sais quand d'ailleurs, ce serait quel point de repère. L'histoire allemande, comme on sait, a beaucoup varié en termes géographiques. Donc, c'est quoi l'Allemagne naturelle? Et donc, il n'y avait pas non plus de nature à ce que cette Allemagne ne soit jamais divisée. Tout ça est très téléologique. L'idée, dans le fond, que cette séparation n'a pas lieu d'être, c'est derrière, il y a cette idée qu'il y a une bonne Allemagne hein, traditionnelle. Et souvent, il y a aussi cette idée, dans le fond, qu'il y a un modèle dominant qui est celui de l'Allemagne de l'Ouest et que l'écart doit être résorbé. Et ça, c'est d'autant plus fort en Allemagne que, dans le fond, on n'a pas gardé grand-chose institutionnellement de la RDA après 1990. Hein, le modèle, dans le fond, ce n'est pas une réunification. D'abord parce que l'Allemagne, dans ses frontières de 90, n'a jamais vraiment existé. D'autre part, parce qu'il ne s'agit pas d'unir à égalité. Hein, ce n'est pas un mariage où chacun des deux époux aurait les mêmes droits et les mêmes devoirs dans le mariage. Hein, c'est un pays qui a été obligé de s'adapter aux institutions d'un autre. Il l'a voulu, en partie par ses votes, mais c'est malgré tout une adaptation. Et donc, du coup, on déduit que les bonnes valeurs, hein, le bon système, le bon modèle, c'était celui de l'Ouest, évidemment avec des correctifs et des corrections, et que l'Est, finalement, s'y est adapté. Mais ça, c'est une vision très téléologique et un peu morale aussi. Vous savez, les Allemands de l'Est qui supportent plus ce discours en disant que les bonnes normes, c'était l'Ouest et que tout ce qui s'est passé à l'Est était forcément pourri, sous le sceau d'une dictature terrifiante et que les Allemands de l'Est ont été simplement des pauvres victimes ou alors des bourreaux d'une dictature terrifiante. Et cette histoire-là n'est pas forcément la leur. Ce discours de l'Ouest, hein, qui considère parfois avec mépris les Allemands de l'Est, c'est évidemment un regard sur l'histoire et ce n'est pas l'histoire elle-même. Il n'y a pas de naturalité à ce que la RDA naisse ou disparaisse. L'historien, il la prend comme un objet qui est aussi légitime qu'un autre. Donc c'est un peu ça que j'ai effectivement essayé de faire, sans jugement moral. Elle n'est pas mieux ou moins bien. Il s'agit juste de dire qu'il n'y a pas de raison naturelle à ce qu'elle ait disparu ou qu'elle ait existé, et qu'il n'y a pas non plus une Allemagne naturelle qui serait l'Allemagne de l'Ouest, avec les valeurs de l'Ouest, avec la démocratie. Et en Allemagne, c'est un discours qui est un peu délicat, parce qu'on a toujours l'impression que si on prend l'Allemagne de l'Est comme un objet légitime, en soi, en le regardant sur tous ses aspects, ben dans le fond, on s'éloigne de l'idée démocratique. Hein, parce que les Allemands sont très attachés, on le sait, par rapport à leur histoire, hein, une démocratie qui soit la plus, la plus forte possible. Parce qu'évidemment, on a vu que quand elle s'affaiblissait, c'était catastrophique. Et donc, du coup, la RDA, pour eux, c'est aussi un anti-modèle, parce que c'est aussi une autre dictature, et qu'en ce sens, elle la regarder d'une manière un peu neutre, objective, froide, c'est dangereux. Dans le fond, parce que ce serait naturaliser autre chose que le modèle démocratique. Donc vous voyez, il y a un peu un enjeu d'écriture de l'histoire en Allemagne. C'est pas simplement deux Allemagnes dont l'une serait plus puissante et aurait gagné. C'est aussi, dans le fond, regarder les choses avec cet enjeu un peu moral en Allemagne. Voilà, et c'est ce qui fait d'ailleurs que les historiens et les Allemands de l'Est n'ont pas toujours très facilement cohabité. Parce qu'il y avait toujours un peu ce regard surplombant des historiens en disant, ben voilà, l'Allemagne de l'Est, c'était la dictature, c'était l'échec économique, c'était la répression, c'était l'incapacité à s'adapter à la modernité. Et puis l'Allemagne de l'Ouest, même avec ses défauts, a réussi tout ça, le miracle allemand, le miracle ouest-allemand. Évidemment, pour les Allemands de l'Ouest, vous imaginez bien que ce n'est pas un discours qui est très valorisant. Hein, l'idée d'avoir vécu dans une dictature, donc d'avoir été en quelque sorte un soumis, hein, à un régime qui était oppressif, d'avoir échoué économiquement, d'avoir échoué ensuite finalement dans la solution politique de 90, puisque peu de ce qui existait en Allemagne de l'Est a été préservé. Donc vous voyez, c'est un peu un discours qui est quand même avec beaucoup de connotations morales, politiques, et qui laisse pas beaucoup de possibilités aux acteurs d'avoir un regard un peu différent. Donc j'ai essayé de sortir un peu de ce regard allemand un peu surplombant.
Je repense à ce que vous disiez, qu'on dit que l'Allemagne de l'Est est condamnée à rester une note de bas de page dans l'histoire de l'Allemagne. En termes historiographiques, donc, elle joue un rôle mineur. Et de façon très actuelle, en termes politiques, dans le discours qu'on entend dans les médias, dans la presse, elle joue en revanche un rôle majeur, puisque... ce à quoi vous consacrez votre conclusion, dans laquelle vous réfléchissez aux traces, aux persistances, à ce qui reste. Et vous parlez de la montée en puissance de l'AFD, du vote d'extrême droite dans les anciens Länder de l'Est. Et dans ce domaine-là, on a un petit peu l'impression que la RDA sert à expliquer les maux de la société allemande contemporaine, dans ce domaine-là, finalement, elle joue un rôle très important. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela ?
Oui, vous avez raison, parce que ce qui frappe n'importe quel observateur des cartes électorales, c'est qu'évidemment, proportionnellement, hein, parce qu'en termes de population, c'est un peu différent, mais proportionnellement, le vote d'extrême droite, donc AFD, hein, l'alternative pour l'Allemagne, est évidemment beaucoup plus important à l'Est, avec des scores qui sont parfois vraiment énormes. Au niveau régional, hein, il y a 30% ou plus. Dans certaines localités, évidemment, ça augmente, notamment ma région de Mansfeld. Quand vous regardez les scores dans ces régions sinistrées des anciennes mines de cuivre, c'est terrible, hein. Ça dépasse 30-40% facilement. Hein, donc effectivement, et quand vous comparez les pourcentages avec l'Allemagne de l'Ouest, vous voyez que c'est sans comparaison. Donc du coup, la question, c'est évidemment pourquoi ? Pourquoi ce territoire ? Et du coup, évidemment, comme ça correspond exactement à la carte de l'ancienne RDA, forcément, la superposition des questionnaires se fait rapidement. Il suffit de regarder les cartes. Alors, on a dit et on dit souvent, ben, dans le fond, ces gens-là, parce qu'il y a toujours un peu ce côté méprisant de prendre en bloc les Allemands de l'Est, ils n'étaient pas habitués à la démocratie, puisqu'ils ont vécu sous une double dictature. Hein, c'est l'idée de la... Donc d'abord, ils ont connu le nazisme, puis la fin de la guerre, la dictature soviétique, et puis celle de la RDA. Donc ils n'en sont sortis qu'en 90. Dans le fond, ils n'ont pas d'éducation à la démocratie. On entend ce discours-là. Deuxième discours, la RDA, se pensant comme un État antifasciste, d'ailleurs, elle a été fondée par des antifascistes, ne s'est pas préoccupée d'un vrai travail de mémoire sur ce qu'ont été les Allemands sous le nazisme. Dans le fond, puisqu'elle était antifasciste, elle blanchissait en quelque sorte sa population, qui n'avait plus besoin de s'interroger sur ce qui s'était passé entre 1933 et 1945. Donc, pas de travail de mémoire correct sur la période nazie, une absence de culture démocratique, peu d'étrangers, on vient d'en parler. Donc, dans le fond, on comprend bien désormais que face à l'adversité, de nouveau l'extrême droite finalement puisse remonter. Donc il y a cette explication par la RDA. Ce qui en fait ne marche pas très bien, pour plusieurs raisons. On pourrait se dire d'accord, mais alors dans ce cas-là, ce pays, s'il est si influent sur ses citoyens d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'antifascisme, qui était véritablement l'éducation centrale de tous les Allemands de l'Est, n'a joué aucun rôle? Donc soit la RDA joue un rôle puissant, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que son éducation antifasciste n'aurait joué aucun rôle, en quelque sorte, pour préserver de ce vote d'extrême droite, avec certains dans ce parti qui sont de vrais fascistes? Donc il y a un peu, on a un peu du mal à comprendre comment elle aurait pu laisser des traces si contradictoires, d'une part. D'autre part, et là c'est vraiment peut-être l'explication plus fondamentale, c'est que ce vote s'explique, ça a été même montré par des analyses des situations économiques des électeurs, elle s'explique beaucoup plus par la situation dans les années 1990. C'est-à-dire que beaucoup des Allemands de l'Est, on n'a pas abordé cet aspect-là, mais ont connu une chute sociale dans les années 90, parce que évidemment il y a eu la montée du chômage, et une montée colossale du chômage en Allemagne de l'Est, avec la fermeture de toute une partie de cette économie socialiste qui a été liquidée. Donc il y a eu reconversion, pré-retraite, chômage, perte de statut pour beaucoup de ces Allemands de l'Est. Et ces années où l'Allemagne de l'Est, le territoire de l'ex-RDA, a servi un peu de laboratoire pour le néolibéralisme, parce que dans le fond, on pouvait imposer des règles qui n'étaient pas en vigueur à l'Ouest, notamment par exemple dans les conventions collectives, qui étaient moins favorables aux travailleurs dans l'Allemagne de l'Est des années 90. Mais ce choc social, dans le fond, a laissé des traces très puissantes, comme d'ailleurs dans beaucoup de régions désindustrialisées. Dans le fond, l'Allemagne de l'Est peut se comparer par certains aspects, c'est une discussion, pas une théorie, au Nord et à la Lorraine en France, des régions qui ont subi dans le fond un choc social, une saignée sociale qui est évidemment très lourde à supporter pour les populations, qui l'expriment de différentes manières, notamment en votant par des partis qui se veulent anti-système. Et du coup, ces régions, en plus en Allemagne de l'Est, ont connu un choc démographique, parce qu'évidemment, perte d'emploi, chômage, donc beaucoup d'Allemands de l'Est sont partis à l'Ouest. Ce qui veut dire que le choc démographique est parfois très important. La liquidation est parfois colossale. C'est parfois 90% des emplois qui disparaissent dans une ville textile, etc. Donc les gens partent. Donc il y a des pertes de population très, très importantes, là aussi en dizaines de pourcents. Et forcément, ça a des conséquences pour ceux qui restent, c'est qu'il y a moins de services publics, il y a moins de services. Donc tout va ensemble. Vous avez moins d'emplois, moins de travail, moins de services, donc un sentiment de relégation, sentiment d'abandon qui conduit souvent à des votes extrêmes. Et d'ailleurs, il y a aussi des sondages. Alors, je ne suis pas un fan des sondages, toujours des grosses constructions, les sondages, mais ça donne une petite idée. C'est que beaucoup des Allemands qui votent, généralement, il y a une forme de parallélisme entre les Allemands qui déclarent se sentir des citoyens de seconde classe à l'Est et le vote pour l'extrême droite. Donc, citoyens de seconde classe votent pour l'extrême droite, sentiment de déclassement. Donc, c'est quand même un lien très fort avec toute l'histoire. Non pas seulement de la RDA, encore une fois, mais avec l'histoire de sa liquidation et de la manière dont ça a été fait. Et ça, évidemment, c'est des questions qui se posent de manière brûlante en Allemagne. C'est pour ça que l'Allemagne de l'Est est dans le fond si centrale. Et vous avez dit qu'elle n'était pas très importante dans l'historiographie. C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'elle suscite une immense historiographie et en même temps, dans l'histoire de l'Allemagne, on ne veut pas lui donner trop de place. Oui. Donc c'est encore assez intéressant. Donc on voit que c'est quand même une question. Et dernier point historiographique, comme historien, je pense qu'il ne faut pas prendre toujours le point d'arrivée comme point de référence. Et si vous voulez, et j'ai essayé aussi d'écrire cette histoire de la RDA en présupposant pas qu'elle allait chuter, qu'elle allait devenir une dictature peu efficace. J'ai aussi essayé de voir comment elle se construisait, donc sans présupposer la suite. Et c'est une historienne que j'aime beaucoup, Arlette Farge, qui dit toujours en histoire, il faut préserver l'appel du possible. C'est-à-dire que donc, quand vous regardez les gens agir, il ne faut pas dire « oui, mais je sais que dans 30 ans, en fait, tout ça, ça va s'effondrer, que ça va être… » Ben oui, certes, il y a sans doute des éléments qui permettent de l'expliquer, mais il y a toujours d'autres voies possibles qui n'ont pas été empruntées. Il y a des bifurcations qui sont inattendues, d'autres qui sont plus explicables. Donc, il faut regarder l'histoire en se disant ben, « moi, je ne présuppose pas que la RDA a pour vocation de chuter, qu'elle a vocation à s'unifier avec l'Allemagne de l'Ouest, qu'elle a vocation… » Je ne peux pas écrire l'histoire en pensant que Mikhail Gorbatchev est déjà là en 1950. Sinon, je trouve qu'on perd en compréhension. Et je finis un peu sur cette question de l'approche de la RDA en Allemagne. Donc, du coup, ce que j'ai essayé de faire… C'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est en quelque sorte quels sont les futurs des gens à un moment donné. Quel futur ils anticipent et comment, dans le fond, vous présupposez qu'il va y avoir un futur. Mais votre futur, ce n'est pas celui qui va arriver, par définition. Les gens de la RDA ne se construisent pas dans les années 60-70 en attendant qu'Helmut Kohl participe à la... ils se construisent par rapport à tout un ensemble d'horizons. Et ça, ça m'a beaucoup fasciné. J'ai essayé de comprendre à chaque fois quel était le futur des gens de la RDA. Et pourquoi c'est intéressant pour la RDA ? Parce que c'est un État neuf. Donc, il faut construire. Donc, forcément, il faut avoir un discours sur le futur. On a toujours un discours sur le futur. Mais quand on part d'une ruine, qui est l'Allemagne en 45, des ruines même, il faut bien que ce discours soit puissant, surtout quand c'est un modèle marxiste-socialiste. Et ça, c'est fascinant. Toutes les formes de futur qui ont été anticipées, je trouve que pour l'historien, c'est aussi intéressant que se dire « je connais la fin, je connais le point d'arrivée, je vais vous expliquer pourquoi tout ça a mal fini, ou a bien fini, comme on voudra en 1990 ».
Oui, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans votre livre aussi, que vous abordez la RDA comme un projet, comme un projet politique qui est aussi proposé à sa population, auquel on cherche à la faire adhérer. Et peut-être pour terminer, je voudrais vous poser une question sur votre projet d'ensemble, justement, et sur le fait que ce que vous écrivez, c'est à la fois une histoire globale de la RDA, parce que vous prenez en compte le temps long, vous en avez déjà parlé, vous prenez donc bien au-delà de la période durant laquelle l'État de RDA a existé, mais vous l'insérez donc dans un temps plus long, dans un espace, dans des espaces plus grands, à la fois la relation avec l'Allemagne de l'Ouest, la relation avec les autres pays du bloc socialiste, le monde dans son ensemble. Et ce que vous faites aussi, c'est une histoire de la RDA qui est globale au sens où elle prend en compte tout un tas de choses qui sont parfois absentes quand on fait trop d'histoires par en haut, justement les dimensions de la vie quotidienne, la manière de se déplacer, les lieux où on fait les courses, ce qu'on mange, ce qu'on sent, etc. La dimension sensorielle, vous y consacrez des pages intéressantes aussi qui me ramènent un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la géographie, c'est une géographie du sensible, du quotidien. Ça fait partie aussi de la globalité que vous avez voulu mettre en œuvre dans ce projet ?
Oui, tout à fait, parce que vous parliez tout à l'heure en introduction à notre conversation des clichés. On a un peu les clichés en disant, soit on a les résistants, les opposants, soit on a des gens qui font rien, soit... Donc on a un peu des images un peu stéréotypées des gens de RDA. Et ce qui m'a frappé, c'est que souvent, ils ont des attitudes qui sont très subtiles dans leur rapport au pouvoir, dans leur rapport au quotidien. Notamment, moi, j'ai discuté avec un peintre, un artiste, qui était très intéressant parce qu'il me disait qu'il était tout à fait critique vis-à-vis du régime, qu'il trouvait inefficace. Et en même temps, il se dit « moi, j'ai envie de peindre à l'intérieur de la RDA ». Donc, il trouvait des manières de composer. Donc, et en même temps, c'était un homme de gauche, donc il n'avait pas non plus envie forcément de critiquer le projet. Il critiquait son application et il trouvait des formes d'accommodement, y compris quitte à faire des peintures critiques qui n'étaient pas acceptées par les autorités, quitte parfois à réussir à les faire passer sous des modalités variées. Mais c'était très intéressant parce qu'on sentait qu'il avait construit une position qui était très subtile. Vous voyez ? Donc, pas dans l'opposition. Il dit, moi, je n'ai pas envie de me taper la prison, etc. J'ai envie de peindre. On peut le comprendre. Mais je n'ai pas non plus envie d'être un suppôt du régime parce que ce régime, ce n'est pas le mien. Il m'a déçu. Il a été déçu notamment par la répression qui a été faite des artistes dans les années 70. Donc, il a plein de déceptions. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a envie d'être un opposant. Donc, vous voyez, c'est des positions critiques. Et donc, j'ai envie de montrer que les gens, ils s'adaptent en fonction des enjeux. Ils construisent un monde à eux avec les contraintes qui sont les leurs. Et c'est pour ça que mon histoire, elle essaye d'être globale. C'est que j'essaye aussi de prendre un peu la complexité des positions des gens par rapport au lieu où ils sont, par rapport aux ambitions qui sont les leurs. Et de voir, de sortir là aussi, encore une fois, des schémas tout faits entre l'opposant, le passif, etc. Il y a plein de manières de faire avec un régime autoritaire qui en plus est un projet auquel on peut adhérer. C'est ça qui est aussi subtil en RDA, c'est que beaucoup des gens d'Allemagne de l'Est croyaient à l'idée qu'il fallait quand même reconstruire une Allemagne plus progressiste après 45. On peut l'imaginer, dans les ruines, nés dans les ruines, ils avaient envie d'autre chose. Donc il pouvait y avoir un point. Donc du coup, le projet pouvait être partagé, sa réalisation ensuite être soumise à la critique. Et ça crée du coup un champ des possibles qui est assez fascinant à explorer. Qui d'ailleurs commence à être bien exploré. Et effectivement, du coup, j'ai essayé de montrer comment ces gens vivaient au quotidien, aussi bien, comme vous le disiez, en faisant leurs courses, parce qu'il y a des spécificités, et c'est d'ailleurs très important, parce que la consommation, ça va être un très gros enjeu, en faisant leurs courses, ou aussi en supportant, par exemple, les contraintes de la pollution, les odeurs, etc. Donc effectivement, faire une histoire aussi au ras du sol, pour qu'on comprenne les enjeux et un peu la subtilité de ces vies qui ne sont pas simplement réduites au cadre du régime.
Vous montrez bien aussi l'insertion dans des formes de micro-sociétés ou de sous-cultures ou de niches, comme le club de foot ou l'église ou ce genre de société dans la société où on a des valeurs partagées qui sont en parallèle ou en dessous du discours officiel et des valeurs du socialisme et qui permettent un écart par rapport à la norme dans une certaine mesure.
Oui, c'est ça. C'est... Je me suis inspiré de ce qu'avait dit aussi l'historiographie depuis longtemps, c'est l'idée de la RDA comme une société de niche. C'est-à-dire l'idée de dire que dans le fond, ben, évidemment, vous pouvez pas vous opposer frontalement au régime, vous pouvez pas construire une alternative en RDA, parce qu'évidemment, il y a pas de possibilité, hein, c'est pas un régime démocratique, c'est pas non plus un régime permettant l'alternative. Donc, si vous voulez vous replier, il faut construire un monde qui soit relativement protégé des autorités, ou en tous les cas, qui puisse vous permettre d'agir comme vous l'entendez à une échelle beaucoup plus petite. Hein. Ce qu'on a appelé les niches. Alors les niches, ça peut être des régions un peu isolées, c'est pour ça que la géographie est intéressante, évidemment. Il n'y a pas le même enjeu si vous êtes à Berlin ou évidemment dans le Nord, dans le Mecklembourg, évidemment, il n'y a pas les mêmes enjeux politiques forcément. Il y a aussi l'idée, évidemment, de construire des groupes un peu en repli. Évidemment, les catholiques, par exemple, aussi ont construit des mondes parfois un peu en disant « tu dis jamais rien à l'extérieur et on fait notre affaire à l'intérieur ». Donc, il y a effectivement chacun essayé de trouver en fonction de ses modes de vie, de ses valeurs. Et puis, à un moment donné, ces niches vont évidemment prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure où le régime est de moins en moins capable aussi d'offrir un projet collectif. Hein, parce que c'est aussi une histoire, hein, c'est global, mais c'est une histoire. C'est-à-dire que le régime évolue et les gens avec, les générations, ça joue beaucoup les générations dans l'histoire de la RDA. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en considération. Ceux qui ont connu l'après-guerre, les ruines, n'ont pas le même rapport que les jeunes hein, qui arrivent à l'âge adulte dans les années 70, à l'époque de la contestation critique partout en Occident du modèle des parents. Donc il y a aussi des effets d'histoire et de génération qui sont très puissants.
Merci, merci beaucoup. Je pense qu'on peut merci. Clore l'entretien là-dessus. Merci encore d'y avoir participé. Et félicitations pour ce beau livre.